Vous avez les idées, vous avez les investisseurs, vous avez même l'équipe, les associés, tout. Et pourtant, il y a un élément qui vous bloque dans votre ascension.
Aïe.
Les premiers clients.
Les money.
Comment vendre à vos premiers clients? Comment trouver vos premiers clients? C'est une question qui est revenue très souvent et qu'on a décidé de traiter aujourd'hui avec mon compère ici.
Présent.
On va voir dans cet épisode quelle a été notre expérience.
Déjà à nous, effectivement.
Quelle a été notre expérience.
B2B, B2C.
B2B, B2C. On va essayer vraiment de couvrir tous les secteurs. Je pense que ça peut s'appliquer à tous les secteurs.
En tout cas, ouais, j'espère.
Et dites-nous vraiment en commentaire, abonnez-vous, dites-nous ce que vous pensez de cet épisode.
Ouais.
On l'a essayé, il est pas trop technique. Hein.
Non, celui-là, après, on a vraiment donné vraiment les principes, mais aussi des exemples pratiques de comment négocier, comment... trouver, comment convaincre, qu'est-ce que nous on a fait effectivement, et je pense que vraiment
comment préparer à une négociation,
exactement comment déjà mesurer aussi, parce que c'est quand même une autre question aussi qu'on a quand même eu. Donc dites-vous que c'est un épisode où on a donné notre expérience, on a donné les principes, et en plus on a répondu aux questions de la communauté Telegram,
voilà,
qui eux ont sûrement posé des questions qui sont celles que vous vous posez.
C'est
ça. Ça vaut la peine d'aller jusqu'à la fin.
C'est un nouveau format. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez, puisqu'on a d'abord parlé, puis on s'est vraiment appuyé sur les questions.
Ouais.
Donc dites-nous, encore une fois, vous êtes dans Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut
ce que les entrepreneurs pensent tout bas.
Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon épisode.
Bon épisode. Shalom, salam.
Salut.
Nouvel épisode du podcast Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que l'entrepreneur pense tout bas. On est parti, donc cet épisode a été réclamé à corps et à cri dans les commentaires et dans le groupe Telegram d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on va faire un petit rappel d'ailleurs sur les règles pour intégrer le groupe Telegram exclusif de la communauté Entrepreneur State of Africa. C'est très simple, ce groupe est pour faire grandir le podcast, donc il peut nous aider à grandir et co-construire le podcast en investissant du temps ou de l'argent. Si vous n'avez le temps, si vous n'avez pas forcément le temps, mais vous avez envie de nous soutenir, vous prenez juste un abonnement annuel de 100€ par mois, il y aura un lien dans la description et vous pouvez nous écrire sur Instagram, vous en verrez le lien aussi. Et si vous avez plutôt que du temps à consacrer, pas forcément les moyens de payer 100€ à l'année pour avoir un accès exclusif aux hôtes de ce podcast et la communauté de haute qualité, vous pouvez nous aider en consacrant du temps. Et donc, chaque semaine, vous pouvez nous contacter sur notre Instagram, Entrepreneur State of Africa, encore une fois, pour demander comment rejoindre. On vous donnera les tâches de la semaine à accomplir. Et si vous accomplissez les tâches de la semaine, vous avez accès au groupe et on maintiendra comme ça, on va dire, les efforts de chacun pour que le podcast puisse être le plus grand et meilleur podcast en Afrique.
C'est ça. Et pour vous donner une idée sur ce groupe, la manière dont il se développe, c'est vraiment en co-création.
Exactement.
C'est pas nous qui donnons toutes les règles de toute façon. Et voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On débrief ensemble les podcasts. Parfois, il y a des questions plus précises. Mm-hmm. On peut aussi se permettre de donner des infos qu'on peut pas forcément donner dans le podcast.
Exactement.
Donc, super esprit, super ambiance. Et puis, on fait de temps en temps des meet-ups quand on se déplace dans
les pays,
dans les villes. On a déjà fait un à Kinshasa, on va en faire un à Abidjan. Donc, voilà, n'hésitez pas. De quoi on parle aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, les gens voudraient savoir comment acquérir ses premiers clients.
Les premiers clients,
ouais. Ouais. Ce qui est souvent un peu la hantise de beaucoup de gens qui démarrent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le public est clairement ceux qui démarrent. Les anciens, vous pouvez toujours voir avec nostalgie. Le public est vraiment ceux qui démarrent aujourd'hui. Et les anciens, vous pouvez voir avec un peu de nostalgie et nous dire dans les commentaires si c'était pareil pour vous ou si on se trompe ou s'il y a des choses différentes.
Mm-hmm.
Mais encore une fois, petit rappel, abonnez-vous, likez quand même la vidéo, parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant, c'est un sujet qui mérite que plus de gens y aient accès. Et donc, pour entrer un peu dans le vif du sujet, on va essayer de vraiment faire ça en quasiment deux parties. On va partager un peu notre expérience, comment c'était nos premiers clients. Et après, on va rentrer un peu plus en détail sur les questions-réponses de la communauté, du coup. Donc,
exactement. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, on avait déjà fait un épisode sur la vente.
Exactement.
Et on va dire un épisode cousin.
Épisode incroyable avec...
avec Dorian.
Ciaravella, qui est l'homme qui a fini le Money Game et le meilleur commercial que je connaisse.
Voilà, exactement. Je ne sais plus le numéro de l'épisode.
Je crois que c'est 10. Non, c'était...
Soit 9, soit 11.
Soit 9, soit 11.
Voilà.
Donc, vous pouvez trouver épisode 9 ou 11.
On mettra le lien comme d'habitude.
Voilà. Donc, si on a oublié, vous le dites aussi. Et puis, on met, c'est tout. Mettez un commentaire.
Voilà. Donc, les premiers clients. Alors, ce qui est marrant avec les premiers clients, c'est que j'ai l'impression que parfois, certains entrepreneurs ont, ont tout. Ils ont l'idée de business, ils ont l'énergie, ils montent le truc. Et après, quand ce sujet de convaincre les premiers clients arrive, il y a un blocage comme si il n'y avait pas pensé.
Pensez avant. Ben, en fait, c'est souvent ce que j'allais dire. Moi, ce que j'aimerais dire dans ce podcast, déjà pour commencer, c'est je ne sais même pas comment tu peux penser à avoir un business si tu n'as pas de clients. En fait, c'est la première étape limite pour moi qui justifie qu'un business existe, c'est qu'il y a des gens qui veulent le payer.
Exactement.
C'est pas une association, quoi. C'est pas du caritatif. Donc, si tu bloques à ça, c'est qu'en fait, tu t'es pas posé les questions du business. L'idée, typiquement, l'idée encore une fois, parce qu'on défonce les gens qui viennent avec l'idée, c'est d'abord, est-ce que des clients peuvent payer pour ton idée et est-ce qu'ils te paieraient toi ?
Exactement. C'est pour ça que parfois, mais on revient souvent à notre...
Lean Startup.
Très souvent, on te pousse à la Silicon Valley à tester ton idée.
Exactement.
Avant de la lancer.
Avant tout.
Voilà, donc, tu as une première version, une version bêta, tu la testes. Le problème, c'est que la manière dont vous testez votre idée, s'il n'y a aucune transaction financière, le test ne vaut rien.
Exactement, c'est juste dire à quelqu'un, est-ce que tu voudrais ?
Voilà.
Ça ne coûte rien.
Est-ce que tu serais prêt à acheter si je faisais une formation sur tel sujet ? Et que tu viens vers nous et que tu dis, j'en ai demandé à 100 personnes et il y a quand même 91 qui ont dit oui.
Oui.
Ce n'est pas le bon chiffre.
Exactement.
Le bon chiffre, c'est de vraiment faire une mini-formation et de proposer le prix, de leur faire un lien de paiement et de voir qui paye.
J'irais même plus loin. En Silicon Valley, normalement, tu peux fake it until you make it.
Fake it till you make it.
Tu peux même envoyer le lien de paiement alors que tu n'as rien.
Exactement. Il y a plein de business qui se sont faits comme ça.
Exactement. Donc, je vais en profiter pour une fois pour parler un peu de ce que moi, je dis à mes vendeurs sur Anka et sur Africrea parce que c'est vrai que c'est un gros sujet à tous les niveaux. Donc là, on parle de vrais créateurs de mode. Moi, je leur dis souvent deux choses. Un, vous n'êtes pas obligé de vendre ce que vous avez en stock. Parce que souvent, les gens vont te dire, mais attends, il faut que j'ai un peu de stock, il faut que j'ai quelque chose. Je dis non, parce que ça se trouve, personne ne va acheter ce que tu veux vendre. Par contre, ce que toi, tu veux en fait, et c'est vraiment la logique de Lean Startup qui est importante, c'est que tu veux itérer, tu veux tester le retour du marché. Donc typiquement, on va prendre n'importe quel produit physique, que tu veux vendre des power banks ou des robes, tu prends d'abord une photo du produit. Des fois même, ce n'est même pas ta photo, hein, pour être très honnête. Il y a des gens qui prennent juste la photo d'autrui. Tu fais une photo, tu postes un prix, sur Facebook, sur WhatsApp, chez tes potes, tu vois qui paye. Si jamais tes potes ne payent pas et que le client, et ça c'est un autre débat pour tes premiers clients, mais on rentrera plus tard, c'est qui doivent être tes premiers clients ? Est-ce que ça doit être des gens qui te ressemblent ou pas ? Déjà, c'est plus dur et c'est la première chose que moi je dirais quand les gens commencent, c'est essayez pas quand vous êtes quelqu'un, je sais pas, typiquement un vendeur en Afrique ou une vendeuse en Afrique de tissu wax qui dit « je veux vendre avec une dame du Marais bourgeoise française ». Tu serais surpris, mais beaucoup de gens ont un profil type qu'ils n'ont eux-mêmes jamais rencontré. Et ça, c'est très dangereux parce qu'en fait, tu n'as juste pas l'endroit, tu ne sais pas où il est. Il faut commencer par chez les clients où tu sais où ils sont. Où c'est des gens qui sont... Tu peux aller vendre, il y a des gens qui vendent dans les commentaires sous des posts Insta qui disent « Ah ben, ça t'intéresse ce post, mais moi, je te propose ça pour t'aider. » Tu as plein de solutions. Mais en tout cas, le premier point, c'est n'attends pas d'avoir le produit même des fois. C'est déjà le premier test pour moi. Tu dis aux gens, j'ai ça, tu vends une promesse et un prix.
Ouais, beaucoup de gens ne sont pas super à l'aise avec cette idée, mais ça vous fait gagner énormément de temps. Énormément de temps. Et puis, si ça se passe bien, vous dites…
je vous livre dans un mois voilà. et tu as une pression.
Et si ça se passe mal, tu peux aussi rembourser.
Exactement. Et Amine, merci. Nous, ça ferait grave, tu appuies sur un bouton, la personne est remboursée. C'est fini. Mais même dans la vraie vie, comme tu dis, si tu ne peux pas le faire, tu rembourses la personne, elle ne va pas te frapper parce que tu l'as remboursé. Crois-moi, en France, c'est légal, 14 jours, alors dans le monde encore plus. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, le point le plus important, c'est que tu vas valider si tu as le bon prix, si tu as le bon produit et si tu as la bonne cible. Et tout ça peut être réglé sans avoir zéro produit, juste en tentant. Et là, on rentre dans un autre aspect qui est important. C'est effectivement, encore une fois, je pense, comme on est dans les premiers entrepreneurs, peur de l'échec, peur de la réussite. Peur de l'échec, c'est si personne ne veut le truc, ils vont avoir honte. Donc, ce que moi, je dis souvent aux gens, mais si tu veux, crée un compte qui n'est pas le tien. Personne ne sait que c'est toi. Et beaucoup d'entrepreneurs que je connais ont commencé, des gens ne savaient pas que c'était eux. Maureen Nanawak, c'est la version truc que j'aime le pain de chez moi. Personne ne savait que c'était elle. À un moment, elle a commencé à se mettre dessus. Et là, on a réalisé que c'était elle. Et là, elle a commencé à vendre plus. Mais si vous avez peur d'avoir honte, vous prenez un numéro même WhatsApp qui n'est pas le vôtre et vous commencez à démarcher les gens. Vous pouvez même vous créer des faux noms si vous voulez. En fait, il n'y a pas de problème.
Mais du coup, il y avait un deuxième truc que tu dis à tes vendeurs. Tu disais.
Ah oui, le deuxième truc, c'est vous pouvez vendre le produit sans même l'avoir. Et la deuxième chose que je leur dis, et c'est super important, tu as raison, c'est vous devez utiliser ça et collecter de la donnée. Vous devez vous concentrer sur comment les gens réagissent. Quand vous postez, vous faites des prototypes de 10 produits, vous les postez et vous regardez lequel a le plus de likes d'abord, de commentaires et peut-être celui qui a le plus d'achats. Parce que même si rien n'est acheté, si tu envoies un produit, et c'est souvent comme ça, tu vois un produit qui va avoir deux fois le nombre de likes des autres ou deux fois le nombre de commentaires, mais personne n'a acheté, celui-là mérite que tu itères. C'est ça la question d'après, c'est comment j'itère.
Définir itérer.
Ah oui, itérer, c'est... Alors itérer, vraiment pour... vous pouvez lire une startup, mais pour aller vraiment dans le détail, itérer, c'est s'appuyer sur quelque chose.
Des feedbacks.
Des feedbacks et faire quelque chose de légèrement différent tout en restant dans le même, dans le même esprit. C'est-à-dire que si tu as une robe en wax que tu as postée qui a eu plus de likes que... d'autres robes en wax, regardez qu'est-ce qu'elle a de différent.
Exactement.
Et ensuite, ce qu'elle a de différent, c'est tu regardes ce que toi, tu peux ajuster.
Exactement. Et puis après, si tu as 80 commentaires qui disent qu'elle serait top en manche longue, bah, peut-être que
tu la veux la mettre en manche longue. Ou si tu as personne qui te parle. Un autre truc que les gens, je trouve, ne font pas assez. Et là, ça commence à ressembler à la phrase que Dorian a dit dans l'épisode en question, c'est aller chercher les clients avec les dents. Ça, c'est un exemple typique. Moi, j'ai des vendeurs sur Africa, ce qu'on leur permet de faire, c'est que les gens même qui te mettent un produit au panier mais ne l'achètent pas, tu peux lui écrire un message. Et sur Insta, quelqu'un qui like ton post, tu peux lui écrire un DM. Si tu vois un truc où tu as eu plus de likes, tu peux écrire... En plus, ce qui est bien avec les premiers clients, et c'est pour ça que je veux...
Vous semblez avoir apprécié notre nouvelle collection.
Est-ce que ce produit-là nous en a plus que les autres? Qu'est-ce qui vous manque pour l'acheter? Est-ce que vous voyez pas vous voyez pas si ça vous irait? Est-ce que c'est le modèle? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est le prix? Tu peux poser la question et vous seriez extrêmement surpris de la volonté des gens de vous répondre quand vous valorisez leur avis. Ce qui compte, et c'est là où souvent les gens ne savent pas demander l'avis des gens, c'est il ne faut pas venir en disant bonjour ça va ou pire juste venir but en blanc pourquoi vous avez pas acheté. Non, il faut venir en disant bonjour madame poli. J'ai vu que vous avez beaucoup de goût, je vois vos posts, vous êtes très bien habillé et vous avez liké un de mes posts, vous mettez le post. Je pense que cette robe vous irait à merveille, flattée. Dites la valeur que vous donnez à son avis, mais je vois que vous n'avez pas passé commande. Qu'est-ce qui manquait?
Exactement. Et quelle que soit la réponse, ce sera un super insight.
Exactement.
Et ça me fait penser à un truc, je ne sais pas si tu as fait ça avec tes tout premiers clients, mais moi je dis souvent, quand quelqu'un se lance et qu'il a des premiers clients, je dis que ces premiers clients-là, tu dois les chouchouter comme jamais.
C'est-à-dire mais oui que,
à vie.
À vie.
comme nos 100 premiers membres
de la Carrégramme, eux, ils seront des fondateurs presque.
Vous êtes chouchoutés quand même.
Ouais.
Ah, parce que ces personnes-là vont vraiment... s'approprier la chose, te faire les feedbacks les plus honnêtes et te donner des éléments qui te permettront de comprendre pourquoi tu vends, pourquoi tu ne vends pas. Et c'est vrai que là, on parle beaucoup du modèle, on va dire un peu type start-up.
Parle un peu de toi.
C'est aussi pareil quand tu es dans le modèle PME, quand tu es dans le modèle B2B. Moi, tu sais, je parle souvent de la première chose sur lesquels je me suis vraiment focus quand je me suis mis à entrepreneur, à savoir la gestion du temps. J'en parle tout le temps.
Ah, très important.
Ça, c'était le premier point. Mais rapidement, après, je me souviens, j'avais une tablette à l'époque, j'avais acheté sur iBook ou je ne sais quoi, un livre sur la vente.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est la base, oui, effectivement.
Ouais. Et
tu te souviens du nom du book? Parce que les gens vont te demander.
Ah mince,
tu connais tes gens.
Pas du tout. Franchement. J'ai choisi les trois qui avaient le plus
de
ouais, mais c'était pas, je pense pas que c'était des...
c'était pas ouf.
Après, dans la vente, t'as souvent des gens qui disent best-seller.
Moi,
je voulais avoir certains principes. Et typiquement, c'est un livre, je pense, je les ai même pas allés jusqu'au bout, mais je voulais avoir certains principes.
Ouais.
Et l'écoute, ça paraît cliché, mais vraiment,
c'est la base de la vente.
C'est la base.
la base.
L'écoute. Et l'avantage avec le digital, effectivement, si votre business est sur le digital, c'est que tu peux avoir des outils pour plus facilement écouter.
Exactement.
Demander des feedbacks. Donc moi, ça a été vraiment un point super important. Après, j'ai déjà raconté dans l'épisode, je crois, avec Dorian, sur comment on a eu nos premiers clients.
Air France, voilà. Enfin, bon. Mais ça, c'était intéressant que tu définisses un peu plus, parce qu'à l'époque, on n'en a pas parlé.
Oui, hein. Alors, à l'époque, je parlais surtout des stratégies que j'utilisais, à savoir ce qu'on appelle l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est en fait faire en sorte, mettre en place des stratégies pour que le client vienne vers vous.
Ouais.
Donc, vous allez créer du contenu, vous allez créer des articles de blog, vous allez peut-être créer des événements. Donc, faire en sorte qu'il vienne vers vous et que du coup, il est dans votre environnement et que du coup, il comprenne ce que vous faites et que du coup, il est plus à l'aise pour exprimer son besoin. Mais aujourd'hui, ce dont on veut parler pour se différencier de cet épisode, c'est de la force que vous allez avoir à aller chercher les clients qui n'ont rien demandé.
Ouais.
Et en faire des clients. Et dans le B2B...
Parce que là, c'était le inbound, en fait, ce que tu as présenté.
Oui, ce que je présentais, c'est le inbound.
Comment tu
crées... Et de mémoire, je pense qu'on en a un peu parlé.
Ouais.
Et c'était justement peut-être la différenciation avec Dorian dans le podcast. Mais je peux donner des exemples de fois où j'ai dû aller chercher le client.
Avec les dents.
Avec
les dents, comme
avec Adicom Days, on a besoin de sponsors.
Sponsor. Ça, c'est lourd. Hein. Ça, je sais que tu es venu nous chercher aussi. Hein. Moi, vraiment, j'ai esquivé 2-3 coups de dents. Là. C'était pas facile au début. Mais...
T'as esquivé 5 ans. J'ai déjà commencé ma petite attaque pour cette année.
J'ai vu que tu as commencé à me mettre des... J'ai vu le petit mouvement de faire « Ah là là, il est beau ce gars-là. »
Mais du coup, cette fois, quand vous êtes dans l'événementiel et que vous allez chercher des sponsors, c'est particulier parce qu'ils n'ont vraiment rien demandé.
Et sérieusement,
ils n'ont rien demandé et vous devez quand même... Et vous êtes persuadé que ce sponsor... Enfin, vous devez déjà être persuadé que ce sponsor peut être intéressant. Et donc, comprendre son ADN. Donc, l'écoute est super importante.
Ouais.
Comprendre son ADN, comprendre
qu'est-ce qu'il cherche
en ce moment.
Ouais. En ce moment, oui, c'est important.
Parce que tu vois...
Les gens n'ont pas les priorités les mêmes tout le temps.
Exactement. Et souvent aussi, les gens ont une idée. C'est-à-dire, moi, le nom, par exemple, d'influenceur que j'entends dire, « Ah, mais telle compagnie aérienne, je ne vois pas pourquoi ils font ça. » Alors que moi, je leur ai proposé un concept où je fais le tour du monde, et puis etc., etc. Mais j'ai dit, mais tu sais que le bureau que tu es parti voir, eux, leur objectif commercial, c'est la destination Abidjan-Paris, c'est tout.
Tout.
Même Paris-Abidjan, ça ne rentre pas dans leur chiffre d'affaires.
C'est tout. Abidjan-Paris et pas forcément Paris-Abidjan.
C'est pour ça qu'ils n'ont pas été intéressés par mon offre, etc. Ben oui.
Parce que
c'est
tu ne connais pas assez ton client.
Exactement. Donc, tu dois connaître, tu dois savoir. Moi, quand au départ... et puis, observer les réactions. Quand tu es à l'ancienne et que tu es face à face, tu peux observer les réactions. Moi, je présentais toujours l'événement. Donc, je parle vraiment de 2017 quand on a lancé l'événement. Mmh. Je parlais de la rencontre entre des influenceurs et des marques. Mmh. Et ils étaient intéressés pour participer, c'est-à-dire rencontrer
des juste être là, quoi.
Etc. Mais je ne voyais pas d'étincelle quand on présentait la partie
sponsoring.
Mais on a continué. Et à un moment donné, parce que la première édition, on s'est dit, pour la première édition, on va juste faire une conférence. Et à partir de la deuxième édition, on va faire des awards.
Ouais, ouais.
Et un jour, j'ai dit ça en réunion. J'ai dit que...
Tu as dit à un client.
Je compte évoluer. Et après, c'est à des awards. J'ai dit, c'est-à-dire... Et puis, on a dit, on va récompenser le meilleur créateur de contenu.
Voyage, fashion, food,
etc.
Ouais.
Et là, j'ai vu que j'avais leur attention.
Là, tu as senti l'étincelle.
Et puis, j'ai dit à Sophia, en fait...
On va le faire là.
On va le faire là.
Ma man,
j'ai compris qu'il fallait rentrer avec ça. Et j'ai compris que dans l'événementiel, ce qui était important pour le sponsor, c'était quel était son moment. Tu vois,
c'est le moment où l'attention est sur lui.
Voilà, parce que le logo, juste avoir un logo,
c'est clair.
C'est trop limité. C'est-à-dire qu'il peut pas, il va te donner peut-être quelques trucs échange marchandises pour le logo. Et puis après, tu comprends derrière, après quand c'est fini, quand ils te demandent des contenus pour mettre dans leur magazine en interne, tu comprends que c'est un enjeu aussi.
Pour eux, se positionner à l'interne, pour montrer qu'ils font bien leur travail.
Exactement.
Très important.
Montrer, en fait, les belles réussites et surtout l'accompagnement de talents, de la jeunesse, etc. Donc,
exactement, ouais.
Tu
ouais,
rentres non, mais... comme ça petit à petit, mais si tu vas et que tu parles tout le temps...
Et que tu n'écoutes pas.
Et que tu n'écoutes pas.
Tu ne regardes pas.
T'arrives à rien. Et moi, je me souviens, on a eu des sponsors. Jusqu'à aujourd'hui, les gens me demandent comment tu as eu tel sponsor. Parce que j'ai beaucoup de sponsors qui ne sponsorisent rien d'autre.
Donne des noms, frère.
Non, mais que ça soit Canal+, que ça soit Air France.
Mais c'est important que soit... parce que les gens, c'est souvent les clients rêvés. Mm. Et ils ne savent même pas qu'en fait, tu bosses avec eux. Tout le monde n'est pas venu au Adécom, mon frère. Donc, Canal+, Air France...
Ouais, sur la première édition, on a eu même L'Oréal.
L'Oréal sont durs, hein, ça je peux te dire.
Ouais, ils sont très très durs. Mais franchement, bon, ça a été long. Hein.
C'était long.
Mais ils sont venus nombreux et tout ça. On a eu quoi ? On a eu Unilever pour la partie food.
Oh ouais,
non. On avait eu CFAO. Franchement, ouais, pour la première édition. On a eu CFAO. Et pendant que je te parle, je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je les recontacte.
Ah, tu vois ?
Parce que eux, ouais, enfin, il faut que je les recontacte. Mais bref, voilà. Donc, c'était ça. Mais après, il faut être persuadé que tu sais que tu as quelque chose qui peut être intéressant pour eux.
Sur ça, j'aimerais juste rebondir sur un truc avec toi qui est peut-être lié à ce que moi j'ai remarqué. C'est que pour être vraiment très précis avec les gens, je pense qu'il faut déjà être dans une logique de comprendre qu'entreprendre, c'est servir. Quand tu entreprends, tu ne vends pas quelque chose. En fait, les gens ont tendance à voir l'entrepreneuriat comme une transaction. Comme je te donne ça, est-ce que tu le veux ou tu ne le veux pas? Alors que pour moi, c'est plutôt, si tu le vois comme un service, je trouve que le mot est plus ce que tu dis, qu'est-ce que tu peux faire pour apporter à la personne? Les gens, si tu fais comme ça, tu te rends compte que c'est comme offrir un cadeau à quelqu'un.
Exactement.
Tu ne peux pas offrir un cadeau à quelqu'un si tu ne saches pas comprendre ce qu'il veut. Et c'est pour ça que c'est très dur d'offrir des cadeaux.
Mais il y a un mot qu'on a pas utilisé, alors que je pense que ça fait un quart d'heure qu'on parle, mais c'est le besoin.
C'est le besoin,
en fait,
exactement.
De là.
Pour moi, la vente, c'est offrir un cadeau à quelqu'un. Et ça, c'est une phrase que je dis souvent à mes amis. Je dis, les gens qui ne savent pas offrir des cadeaux, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, ils t'offrent des cadeaux, tu reconnais que c'est ce qu'eux, ils voudraient. Tu sais, ils t'offrent un truc, toi, tu n'as rien à faire, mais eux, ça leur fait plaisir. Ils se disent, ça lui fera aussi plaisir. Et souvent, ces gens-là, j'ai remarqué, sont les plus mauvais vendeurs. Professionnellement et dans la vie perso. Par contre, les gens qui te font des super cadeaux, qui prennent le temps de comprendre ton besoin, ta personnalité, et surtout, c'est hyper contextuel, c'est ton moment, c'est ta situation du moment. C'est pour ça que l'anniversaire est le meilleur moment pour moi, parce qu'un cadeau, c'est un anniversaire, c'est chaque année, il faut l'offrir. Moi, j'adore faire des cadeaux, parce que pour moi, c'est le moment où j'exprime ma connaissance d'une personne. Et la vente, j'ai l'impression, quand je t'écoute parler, c'est ça en fait, il faut être attentif en fait. Tu ne peux pas venir vendre à quelqu'un en disant, moi je pense que ça lui ferait plaisir d'avoir son logo dans mon événement.
Exactement.
Alors que peut-être pour toi, c'est juste toi ce qui te fait plaisir. Mais c'est parce que lui, il fait plaisir. Et je pense qu'il y a un dernier point qui est important que tu as évoqué. Quand tu as dit dans la réunion, tu as lâché les awards, il y a aussi la vision. Beaucoup de gens viennent et ne veulent vendre qu'un produit à l'instant T. Comme beaucoup de créateurs chez moi viennent et veulent vendre une collection. Mais en fait, si tu leur demandes ta quatrième collection, elle sera sur quoi? Ta collection dans 10 ans, tu voudrais que ce soit quoi? Ils ont un blanc. Et ça fait que comme ils ont un blanc, ils n'ont pas beaucoup de choses sur lesquelles itérer. Et encore une fois, ce que je n'ai pas dit, itérer, oui, il faut regarder ce qui est là, mais il faut avoir une direction dans laquelle tu veux itérer.
C'est ça, c'est que, en fait, si, je prends, si on reste sur la mode, si tu vas et que tu demandes, tu as pensé quoi de mon dernier produit, ce n'est pas une question qui va vous donner...
des réponses actionnables.
Voilà, en gros, vous demandez... tu pars sur quel style à la rentrée? Ou alors, c'est quoi la dernière chose que tu as porté et tu t'es vraiment senti bien?
Beau gosse.
Tu vois, voilà, faut poser des questions où la personne s'ouvre sur qui elle est.
Exact. Et tu as tellement compris. C'est là où je vois le marketeur, le vrai. C'est ça, même en fait.
Et en plus, aujourd'hui, avec les outils tels que Insta, etc., tu peux faire des sondages dans tous les sens.
Dans tous les sens pour, avec pour 10 personnes. Et ce qui est bien avec tes premiers clients, c'est que tu n'as pas besoin de grand nombre. C'est ça qui est magnifique avec tes premiers clients. C'est que tu n'as pas besoin, pour quelque chose soit significatif, qu'il y ait plus de 10 personnes.
Exactement.
Tu n'as pas besoin. Avec 3 personnes, tu peux avoir une direction. Et après, tu rajoutes.
Donc après, il y a le débat. Est-ce qu'on est vendeur ou est-ce qu'on le devient? Mais je pense qu'effectivement, tu peux avoir peut-être certaines aptitudes. Mais
ça s'apprend.
Moi, sans ces lectures... Regarde, là même...
Voilà. Tu vois. Writing, ouais, winning, pas, business proposals.
Pas tout lui, mais tu vois, pour ceux qui font des appels cadeaux, voilà. Tu vois, on me l'a offert.
Okay. Ouais. Ben là, quelqu'un de bien. Ouais. La personne est un bon vendeur. Ouais, ouais. Ou t'aimes bien. C'est l'un ou l'autre.
Oui, bon. Il s'occupe aussi de mes finances.
Ah, c'est important. Il avait intérêt.
Monsieur Kofi.
Voilà.
J'ai retrouvé le livre. Tu pensais que je l'avais perdu.
Exactement.
Donc,
c'est important que tu dises qu'il faut que ce soit timé et dans l'action. Tiens, regardez un podcast comme le nôtre, c'est très bien. Mm-hmm. C'est un bon début. Mais après, il faut partir sur l'action. Il faut se donner un plan d'action. Et moi, un autre truc que je vais donner de la Silicon Valley qui est important, donc il y a le fake it until you make it. Donc, c'est tu factures avant même d'avoir le produit. Mm-hmm. Très important. Deuxième chose, c'est le timing, c'est la semaine. Mm-hmm. Il faut une forme d'urgence. Je m'explique. Mm-hmm. Tes premiers clients, si tu y restes, en fait, tu peux être très longtemps dans le flou.
Exactement, oui. La célérité, la vélocité. Je vois où tu veux en venir.
Tu vois, non ? Il faut créer une urgence, il faut créer une envie. Mmh. Parce que les gens ne se connaissent pas, ils n'ont pas de problème.
Et puis, ils ont plein d'autres choses à faire. Exactement. Ils sont sur TikTok.
Exactement. TikTok, t'as tout compris. Non, mais c'est exactement ça. Il y a une urgence à créer que les gens souvent négligent. Et moi, je vais te donner un exemple. Donc, pour nous, les premiers clients, parce que souvent, j'ai déjà expliqué ça beaucoup de fois, mais je pense que je vais réexpliquer là. Africra, quand on a commencé, la première chose, on a dit dans l'épisode « Comment se lancer », c'est que j'ai regardé le périmètre. Mmh. Il y avait beaucoup de sites web qui avaient déjà vendu, déjà fait des preuves. Des gens même ont commencé avant nous, alors qu'on a eu l'idée en même temps. Donc, ce n'était même pas une question de timing à ce moment-là. Mais ce qu'il y avait qui était important, c'est comme tu as décrit, nous, on avait une volonté profonde d'offrir quelque chose de nouveau aux gens. Mmh. Les 20 premiers clients chez Africrea, je les ai tous vus en personne. Et j'ai créé leur boutique avec eux.
Mais je me souviens que jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu étais toujours en WhatsApp
avec mes clients. Moi, je vais donner une règle pour les gens, il faut qu'ils comprennent. Moi, j'avais une règle que j'ai dû arrêter parce que mes associés m'ont dit d'arrêter, mes investisseurs m'ont dit d'arrêter. Jusqu'à ce qu'on ait 10-20
employés. Chaque semaine, tu appelais.
Chaque jour, je parlais à un vendeur et un acheteur. Chaque jour. Et c'était simple. J'avais juste tous les acheteurs de la semaine. La semaine d'après, tu as une chance sur deux que je t'appelle. Parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Au début, tu en avais un, deux par semaine. Mais ils m'avaient au téléphone.
Ils racontaient leurs problématiques.
Et je leur disais, mais regarde sur le site, il y a tel produit.
Ah, je ne savais pas.
Des fois, ils disent, non, mais j'ai vu, mais je ne trouve pas ça beau. Je dis, OK. Et moi, j'avais une phrase, j'aimais beaucoup dire, comme toi. Je disais, mais c'est quoi le dernier produit ou la dernière plateforme où tu as acheté un truc que tu as trouvé génial? Ou des fois, j'avais une autre phrase que j'aimais bien, c'est, si moi, je te dis, merci d'avoir acheté. Si je t'offrais 100 euros pour acheter n'importe quoi, t'achèterais quoi?
Voilà les vraies questions. Les vraies questions. Et tu sais, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'acquisition de clients. Mais chaque fois qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui veut entreprendre me pose une question, une problématique où il a vraiment du mal, que ça soit sur sa vision, etc., et que je n'ai pas, tu vois, j'ai pas une réponse toute faite,
bien sûr.
Je lui dis toujours, tu sais, quand tu as un vrai blocage, parle à tes clients.
Parle à tes
clients. Ne parle pas à moi. Moi, je ne suis pas ton client. Ne parle pas à ton cousin. Ne parle pas à,
c'est pas
à
ton
tel
client.
Entrepreneur. Parle à tes clients. Et c'est pour ça que, idéalement, il faut ouvrir très rapidement un dialogue. Comme ça, tu es à l'aise et tu prends cette habitude-là.
Et pour tempérer ce qu'on a dit sur la vélocité, ce que tu as dit aussi est important. Là, tu viens de dire, je vais rappeler CFAO. Il faut maintenir le dialogue, même si tu n'as pas tout de suite quelque chose pour eux.
Exactement.
Et ça, c'est beaucoup de gens, quand ils vendent, si la personne ne leur donne pas réponse maintenant, ils ne calculent plus.
Mais oui, et puis il y a une question d'ego aussi qui rentre parfois en disant, par exemple, ah, l'année dernière, ils ne m'ont pas sponsorisé, maintenant ils veulent.
Oh,
ça, c'est
les gens qui entreprennent pour la liberté.
Thème dans le pipe sur l'ego. Tu sais
qu'on en a un, t'inquiète, il va venir. Tu sais qu'on en a un, mais il va être critique celui-là, on le garde au chaud.
Mais c'est vrai.
Et moi, je donne un exemple. Beaucoup de gens en parlent. Je pense souvent de Nana Wax quand je parle ça, parce que c'était vraiment une de nos premières clientes qui a fait une différence. Maureen m'a dit non combien de fois de vendre sur Africrea. Les gens ne savent pas. Et combien de gens viennent voir Maureen pour vendre jusqu'à aujourd'hui, ils leur disent laisse Africrea, moi je te fais un site gratuit. Tu sais, la différence que je dis souvent aux gens, c'est que Maureen, au début, elle m'a dit dès le début c'est quoi son problème. Elle m'a dit Moulay, moi je fais des ventes privées tout le temps, donc je ne peux pas expédier tes trucs de vente en ligne, il faut gérer, je n'ai pas le temps. Et pendant des années, effectivement, je n'avais pas non plus le temps parce que je ne pouvais pas non plus faire ça. Mais un moment est arrivé où on a discuté, elle et moi, un jour, simplement. Elle avait posté sa veste sapée comme jamais, un carton. Je lui dis juste, ah, ce produit est génial, j'aurais aimé l'avoir sur Africrea. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu cette fois-là? Elle me dit, mais d'ailleurs, j'entends beaucoup de parler de toi par d'autres créateurs. Ils me disent que ça marche bien ton truc. Mmh. Et à ce moment-là, elle était dispo, elle m'a dit, c'est dommage que tu me règles toujours pas mon problème d'expédition. Mmh. Et là, j'ai dit, bah, écoute, si c'est toi, je fais une exception. Et là, c'est la dernière règle des startups qui est importante quand tu commences, c'est « do things that don't scale mmh. ». Ne fais pas toujours des choses en te disant « il faut que je puisse faire pour 100 clients mmh. ». Ce n'est pas vrai. Des fois, faire des choses pour un client de façon manuelle, comme j'ai dit, uploader les produits des gens, ça m'a permis de me rendre compte moi-même à quel point mon site était flingué. Mmh. Tu vois, parce que si toi-même, tu es là avec le client et que tu vois, ça bug un peu ou que tu mets trois piges à ce que ça charge la photo, tu es dans sa peau et tu vois sa réaction. En plus, comme tu le fais avec lui, mmh. tu vois que la personne passe sur autre chose. Elle prend son téléphone. En fait, tu te dis, si je n'étais pas là, mmh. elle n'aurait pas fini.
Bien sûr.
Et donc, c'est là comme ça qu'on a closé Maureen la première fois. Bon, après, c'était marrant parce que première fois, on a fait ça. On a voulu commencer à poster pour elle. On a fait les cons parce qu'en même temps qu'on faisait ça, on a fait les événements genre Naturel Air Academy et tout. Mmh. Donc, on n'a pas bien géré les stocks de Maureen. On a fait plein d'erreurs. Mmh. Elle nous a incendié sur les internets comme elle sait si bien le faire. On disait qu'on est des voleurs, nanana. Et je me suis excusé, j'ai dit, t'as raison, on a merdé. Mais elle avait des personnalités aussi, mais c'est nous qui servons Maureen. Mmh. Et c'est là où le client est roi devient réel. Mmh. C'est même quand le client, vous partagez les torts, c'est toi qu'on paye. Mmh. Donc il faut que tu prennes le truc. Et la fois d'après, elle est revenue parce qu'on a fait un autre truc. Il faut aussi un truc que, comme t'as dit, je trouve que c'est important. Quand t'as dit le inbound, un truc que nous, on a fait de inbound qui a beaucoup marché, c'est le livre blanc de la mode africaine qu'on
a
sorti.
Oui, je me souviens.
Tu te souviens?
Ouais.
Avec ça, Maureen est revenue. Mmh. Parce que quand c'est sorti, je lui ai envoyé. Elle m'a dit, ah ben, bon, c'est vrai quand même. Parce qu'elle a vu notre sérieux dans le document. Elle s'est rappelée notre sérieux. Entre-temps, elle avait essayé de faire son site elle-même. Mmh. Et elle a galéré. Donc du coup, elle-même, elle s'est dit, bon, quand même, ces gars étaient sérieux, même s'ils ont merdé. Je vois qu'ils sont encore plus sérieux qu'avant. Mmh. Tentons. Et Grassfields, par exemple, un de mes premiers gros clients sur Africa. Mmh. Pareil, le livre blanc, je les ai mentionnés dedans. Pendant des mois, des années avant, je leur avais écrit, elles ne me répondaient même pas. Là, j'ai fait un mail en disant juste, je crois que le sujet, j'avais mis « On vous mentionne comme étant la meilleure marque de mode africaine en ligne. Mmh. » Évidemment, ils vont ouvrir. Mmh. Et j'ai mis le lien du livre blanc en disant « À telle page, je dis à quel point vous êtes un modèle. Mmh. » Je n'ai pas besoin de dire tout le livre, je dis juste « À telle page, je parle de vous. Mmh. » Elles m'ont répondu en disant « Ah, c'est gentil, merci, ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, c'est un moment qu'on voit que tu nous écris, on ne répondait pas. » J'ai dit oui, non, mais là on s'est amélioré, donc j'ai placé mes chiffres en disant maintenant on a doublé notre volume, blablabla. Mmh. Ils m'ont dit ah, et là, Kiss Cool, premier client, des fois tu fais des choses gratuitement. Tu l'as dit, tu te souviens? Mmh. Tu l'as dit dans la vidéo de Don. Tu as fait des événements où les gens venaient discuter. Donc moi je lui ai dit à elle, écoutez, comme c'est vous, pendant 3 mois, vous payez 0 commission. Mmh. Parce que je savais que à ce moment-là, mon produit était bon, et je savais que leur donner le trial allait convertir. Donc c'est toutes ces étapes que les gens négligent.
D'ailleurs il y a un extrait.
Ah oh, oui c'est vrai. Il faut que les gens regardent. Oh là là, j'avoue que tu me ressors ça, ça me rend triste à chaque fois.
On a parlé de Grassfield dans l'épisode 15.
15 exactement, méritocratie avec Paola.
On a posté même l'extrait juste dédié à Grassfield.
Des 12-15 minutes.
Voilà.
Si vous voulez pas rester une heure causer avec nous,
voilà, allez
servez-vous.
Voir. C'est vraiment l'histoire d'une startup qui avait. Des millions de followers et qui...
Malheureusement, la croissance les a...
Mais d'ailleurs, tu sais, je l'ai dit, sur les commentaires, il y a eu un commentaire qui m'a trop fait rire.
Et dit quoi?
Je crois qu'on a trouvé un nouveau surnom pour toi. Là.
Non, Seigneur, quoi encore?
Alors, je ne sais plus le nom de la personne, elle se reconnaîtra, mais disait que Moulay...
Dis quoi? Les gars, déjà pété de rire, c'est scandaleux.
C'est le roi du Congo, sa business.
Et c'est tellement vrai. Oh, c'est tellement vrai.
Et c'est Moulay MT, il aime trop le Congo ça business.
Non, en fait, c'est terrible parce que j'ai grandi avec une mère et une sœur qui adorent le Congo ça.
Et toi, t'as ajouté
business. Et moi, j'ai ajouté business dedans pour me justifier quand même. Mais à une époque, j'ai acheté le magazine Management. C'est plus du Congo ça business, ce n'est que ça. Et j'ai arrêté, j'essaie de me faire soigner. Mais c'est vrai. Genre, franchement, si un jour je fais une émission, je pense que ça s'appellera comme ça.
Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du
Congo ça business.
Congo ça business. Gossip totalement Bjorn. Assumé par notre ami ici.
Je te jure. Mais je pense que ça fait une bonne transition pour du coup, on va quand même répondre aux questions des gens. À part si tu avais un autre truc, je pense que là, on a quand même couvert les bons outils.
On a couvert.
La première question que les gens nous avaient posée, c'était définir plus clairement et chercher les clients avec les dents. Je pense que là, on a déjà un peu donné des exemples. Moi, l'exemple que je peux donner aussi, chercher les clients avec les dents, un autre truc qui est important, je mettrai le lien de ça parce que c'est une vidéo importante, c'est des fois, les clients veulent des choses de vous qui n'ont rien à voir avec ce que vous vendez. Très important. Nous, on voulait vendre une marketplace, un site web, et on s'est rendu compte que le plus gros problème de nos clients, ce n'était pas la vente en ligne, c'était la vente physique. Mmh. C'était de vendre dans les événements comme le Labo Ethnique, je me souviens à Paris.
Oui, bien sûr.
C'était un événement incroyable. Mmh. Tata Yvette, on pense à toi.
C'est, Congo.
Congo représente, franchement. Et du coup, cet événement, c'était le rêve de beaucoup de vendeurs. Ça coûtait 1 000 euros, quasiment, voire 2 000 euros pour chacun.
Mais t'étais déjà en vie à cette époque.
Mais gars, depuis 2013, je suis dans le bendo, ma friend. 10 years dans le game. Les gens, des fois, négligent, on est là, mais on se bat. D'ailleurs, dans la vidéo, quand tu regardes la vidéo, j'étais fin. C'est beau gosse. Mais bon, bref, je mettrai la vidéo. Le point intéressant, c'était que je regardais, et la vidéo est là encore sur YouTube, où en fait, on a créé des stands communs. Au lieu de chaque vendeur essayer de prendre un stand à 1500 euros, nous, on est venus, on a dit au Labo Ethnique, on va vous prendre un stand de 100 mètres carrés. Qui évidemment est dégressif, donc coûte moins cher au mètre carré. Et après, à l'intérieur, on a dit aux vendeurs, mais vous n'avez qu'à payer moitié prix. Vous payez 750 euros.
C'était pas au truc de la mode, là?
Si, au truc vert, exactement.
Oui,
vert de scène.
Enfin,
tu te souviens de ça? Du coup, la vidéo est là encore. Tu as la vidéo de l'événement et tu nous vois. On a créé un stand. Donc, vous voyez les stands qu'on a créés pour chaque vendeur. Et le point important, c'est que quand on a fait ça, nous, on a juste dit aux vendeurs, on vous permet d'avoir accès à l'événement à moitié prix. Mais en échange, vous devez mettre vos produits sur Africrea et partager le fait que vous serez au Labo Ethnique avec nous. Et du coup, ça a eu un double effet. Comme toute marketplace, tu dois régler deux problèmes en même temps. On a eu des vendeurs sur la marketplace, mais comme à l'événement, il y avait plein d'acheteurs, ils ont découvert la marque Africrea. Parce que les gens, on a quand même brandé, vous verrez, on a brandé, le poste est vilain, hein, soyons clairs. Mais on a brandé comme on a pu, on n'était pas des merchandisers. Hein. On a brandé comme on a pu Africrea.com et après, chaque marque avec son petit logo. Et c'est vrai que Africrea, c'est là où on a eu un pic.
Je vais essayer de retrouver, mais je crois que j'ai une photo devant votre...
Vous avez fait un petit Wall of Fame, là. Oui, elle fait un Wall of Fame, oui.
C'était avec une amie, on était venus.
Franchement, merci. Franchement, ça a des femmes de bottom. Vraiment, tu étais là dans les combats. Et donc, c'est là où on est passé de... Les 20 premiers clients, je les ai onboardés moi-même. Et Kader a eu cette idée, justement, des événements et tout. Il m'a poussé à le faire. On a exécuté avec lui. Et c'est là où on est passé en 3 mois de 20 à 100 vendeurs. Parce qu'en plus, dernière chose pour conclure, quand les gens ne te donnent pas forcément ce que... Ils disent pas forcément ce que tu vends, forcément ce qu'ils veulent. Des fois, il faut aller plus loin. Il faut voir des fois ce qu'eux-mêmes ne veulent pas faire, mais qui est bon pour eux. Nous, c'était avoir une carte bleue dans les événements. Les vendeurs trouvaient ça chiant. Ils disaient juste aux gens, allez retirer, vous revenez. Mais ils perdaient des ventes.
Bah oui.
Donc nous, on leur a dit, écoutez les gars, nous, on va prendre un terminal carte bleue pour tout le stand en Africrea. On vous donne un petit système de ticketing. Et les gens payent tous avec nous. Et qu'est-ce que tu penses que les gens, je leur faisais quand ils venaient payer? Mais je leur racontais c'est quoi Africrea. Je me demandais est-ce que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez aimé. Donc je vendais ma sauce et après, 2-3 jours après, on balançait aux gens l'argent. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'événement, on en avait, je pense, 20-30 vendeurs sur le stand. Mais tous les vendeurs de l'événement, avant la fin de l'événement, ont créé leur boutique sur Africrea pour pouvoir avoir notre TPE. Je leur ai dit, moi je prends votre argent, il n'y a pas de problème, j'encaisse pour vous, mais je ne vous rends pas l'argent tant que votre boutique n'est pas sur Africrea. Donc, c'est un autre exemple de truc qu'ils ne voulaient même pas le faire, les gens. Bon, tu vois, aujourd'hui, dans tous les événements, je crois, un an ou deux après, tout le monde avait son TPE. Mais c'est ça, innover. Les gens pensent qu'innover, c'est avoir une idée ex nihilo. C'est pas ça. Innover, c'est regarder les besoins que les gens ne sont pas prêts à résoudre, mais qui leur apporteraient suffisamment pour que toi, tu gagnes dedans.
Mais donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que l'autre jour, on parlait de pivot.
Ouais.
En fait, là, c'est pas un pivot. La mission est la même.
Exactement. Tout,
mais tu vois, à un moment donné, dans le process, dans la vie, dans le customer journey,
exactement,
tu as changé quelque chose, tu vois. Et tu as pu le voir, entre guillemets, un peu par hasard, parce que tu as commencé à aller sur les événements.
Ouais, et je les ai écoutés. Non, mais je les ai écoutés. Et je leur ai posé la question, quel est votre plus gros problème dans votre business?
Juste derrière ton ordinateur tout le temps.
Bien sûr, c'est mort.
T'allais rester à 20 vendeurs.
Et rien se passait. Et j'allais continuer à les avoir un par un. Et c'est là où, surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut poser des questions aux gens, comme tu as dit, les connaître plus largement que ton business, ton problème que toi, tu as vu. C'est là où ils m'ont dit, je leur ai dit, mais c'est quoi ton plus grand problème dans la vie? Ils m'ont tous dit, j'aimerais pouvoir faire des ventes plus grosses, dans des plus gros événements, mais c'est cher.
Exactement.
Et ils ne pensaient pas que je pouvais le résoudre, pour être clair. Ils ne me l'ont pas dit en mode, ah, si tu le résous, je vais payer. Donc, et pour qu'est-ce moi, ça répond à une des questions qu'on nous a posées dans le groupe Telegram, dont je me souviens que je trouvais était hyper pertinente.
C'était laquelle?
C'était comment identifier si quelqu'un est un bon client pour toi?
Comment identifier
si quelqu'un est un bon client pour toi? Ça, pour moi, c'est très, très important. Déjà, il ne faut pas identifier un client par l'idéal que toi, tu t'en fais. Un bon client pour toi, c'est un client que tu sais trouver et un client que tu peux apprendre à connaître ou tu peux créer ce dialogue. C'est la première étape. C'est pour ça que prendre des clients que tu ne connais ni David Adam. Par exemple, dire, moi, je veux vendre un truc, par exemple, typique, j'adore. Les gens qui disent, je veux vendre des produits de luxe. Mmh. Moi, je leur demande souvent, toi, tu connais combien de gens qui ont des produits qui coûtent plus de 1000 euros? Toi, personnellement, tu achètes des produits qui coûtent plus de 1000 euros? Si toi, tu ne le fais pas, si ton entourage ne le fait pas, comment tu vas comprendre comment trouver des gens qui dépensent plus de 1000 euros dans un sac? Mmh. Et toi, tu veux vendre un sac à plus de 1000 euros?
C'est là qu'ils vont te répondre, oui, mais j'ai déjà 42 000 followers.
Amina!
Parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi.
Les followers, c'est pas l'argent. Hein. Les likes ne payent pas le loyer.
Quand les crowdfunding ont été tendance, là.
Oh, voilà. J'avoue, il y a eu des airballs. C'était dur. C'était raison. Chaud, hein. Ça a fait mal aux gens. Hein.
Les likes. Gens, ils se faisaient des calculs. 1 million de followers, chacun met 1 euro.
Bon, je l'ai fait 1 million.
C'est fini.
Et c'est horrible. Un follower, tu ne sais pas pourquoi il est là.
Non, c'est pas. C'est... Liker, c'est pas quelque chose d'engageant.
Exactement. Et pire, des fois, comme tu avais dit, toi, tu as toujours dit un truc important, c'est les gens sont des fois là pour juste que tu ne comprends pas. Des fois, ils sont là parce qu'ils te trouvent beau. Des fois, ils sont là parce qu'ils te trouvent drôle. Mmh. Ils sont là, ça se trouve, parce qu'ils te détestent. Soyons clairs. Aussi, c'est une réalité. Donc, à un moment, il faut.
Il n'y a que la vérité de la carte bleue. Là.
C'est ça seulement qui me. C'est ça qu'on c'est a bien dit, l'épisode, c'est acquérir des clients. On n'a pas dit acquérir des followers, hein. C'est pas notre métier.
Ça, c'est encore autre chose.
Ça, c'est encore autre chose, tu vois. C'est encore autre chose. Donc, sur le client potentiel, il y a ça. Il faut pouvoir le toucher, pouvoir le connaître. Le deuxième client potentiel, c'est il faut que tu identifies pour moi à quel point sa souffrance lui coûte cher ou à quel point il est prayé pour. Le gros problème des fois des gens, c'est qu'ils résolvent des, ils solvent des problèmes que leurs clients ne sont pas prêts à. N'est pas assez pénible pour que les gens payent. Et ça, c'est très, très dangereux. Le nice to have, en général, tu le vois quand tu as l'humilité de faire ce qu'on a dit avant sur quand tu te lances, tu parles à d'autres boîtes qui ont été avant toi. Eux, ils peuvent te dire en général. Oui, c'est ce problème dont tu parles. On a essayé aussi, mais les gens n'étaient pas chauds pour payer. Eux, ils ont parlé à leurs clients, ils ont vu que leurs clients ne payaient pas. Tu peux après te dire, moi, je suis meilleur vendeur qu'eux, allez tester aussi. Mais ne jamais discounter le fait que si un problème n'a pas été résolu, c'est souvent que les gens ne sont pas, c'est pas si gênant que ça.
Ouais.
Et c'est pour ça que faire payer les gens pour résoudre un problème avant même de le résoudre est très important.
Ça, c'est important. Et tu sais, pas plus tard qu'il y a 2 heures.
Ah, intéressant.
Il y a mon mentor qui m'a appelé parce qu'il voyage beaucoup en ce moment.
Ouais.
Et il me disait, mais là, il allait à Dakar. Puis je dis, ah ouais, justement, on a des trucs sur ça. Et puis il me dit, mais là, j'ai rien de toi qui me permettrait, quand il rencontre des gens,
de passer l'info.
De me vendre. C'est-à-dire que, en gros, j'ai rapidement compris, c'est à peu près ce qu'on fait, mais je ne peux même pas lui envoyer notre plaquette commerciale. C'est trop long. Donc il m'a dit, tu fais une slide.
Magnifique.
Voilà, une slide.
Ah, j'aime ça.
Mais avec, c'est ça. Et tu mets une colonne, tu mets un pain point. Voilà, d'abord, pain point, c'est-à-dire que, en général, voilà, voici le point de douleur.
Dans la voix du client.
Voilà, dans la voix du client, à la place du client.
Qu'est-ce que l'huile fait
suffisamment d'expérience pour dire, c'est ça votre point de douleur.
C'est ça qui vous fait chier.
Il y a de fortes chances que ça, c'est votre point de douleur. OK. Ensuite, tu mets timeline. C'est-à-dire, en combien de temps
je peux résoudre ça.
Tu peux résoudre ça. Tu mets la solution, enfin, tu mets juste le type de solution que tu mets en place. Et puis, quatrième colonne, références.
Tous ceux pour qui tu as déjà fait ça.
Voilà, et c'est tout.
Terminé.
Oh, magnifique. Et c'est tout. Et tu peux faire une slide pour ça. Bon, moi, je suis dans le B2B, donc c'est plus long. Mais ça, c'est ce que je peux faire en 3 mois, ça en 6 mois, soit en 12 mois.
Exact.
Tu vois.
Bien.
Et à partir de là, c'est vrai que ce genre de choses structure aussi ta
compréhension de ton biz même.
Voilà, de ton biz.
Et de comment tu te vends
en langage. Et tu crées en fait un langage avec ton interlocuteur qui commence par lui.
C'est très important.
Qui commence par lui. Il faut toujours. Moi, quand je pitch, quand on a un appel d'offres et quand on vient pour pitcher, je commence jamais par nous, tu vois. Bien sûr, en fait,
ouais,
on est dans un monde. En fait, mon idéal, c'est à la Steve Jobs, c'est d'arriver sur scène et dire,
on est les meilleurs, on va révolutionner le monde.
Ouais. Once in a while,
une belle histoire.
Mais on est dans des environnements où il faut se présenter quand même. Il y a le fameux tour de table, chacun dit qui il est. Bon, je laisse ces 2 petites 3 minutes et puis après, je commence en parlant de vous.
Important.
Toujours en parlant de vous, en disant ce que je sais sur vous, quelle est votre problématique, etc. Ce n'est qu'après
que tu dis quoi.
Voilà.
Parce qu'en plus, tu peux à ce moment-là te rendre compte en live quelque chose que tu as peut-être. Tu peux ajuster ton discours. Moi, je sais que mes équipes, c'est marrant que tu dis ça parce qu'ils savent que par exemple, je leur dis toujours, même les mails qu'on fait aux créateurs, je ne veux pas entendre de nous. Le mot nous est proscrit.
Ouais, c'est pour ça que tu disais même de, ils n'ont qu'à demander à ChatGPT. Si
exactement. Mais écrivez dans la voix du client. Et c'est vraiment vrai. ChatGPT, vous allez si vous n'y arrivez pas. Mais moi, le tip que je donne, et ça, j'ai appris ça en, effectivement en cabinet quand tu vends, tu ne parles que au nom du client. Dans ta, dans ton pitch, c'est vous. Parce que c'est eux qui les intéressent. Il n'y a personne qui est plus important pour soi-même que soi-même. Personne. Il n'y a jamais aucun moment.
Exactement.
Aucun moment. Dans la vente plus qu'ailleurs. Donc, si tu veux tes premiers clients, tu dois parler d'eux. Tes mails, tes messages, même tes DM, tes commentaires doivent parler d'eux. Pas d'autre chose. Il y avait une question sur les négociations qui avait l'air d'avoir un peu de traction.
Ça en a répondu.
Elle dit comment se prépare à une négociation difficile. C'est vrai que c'est Sandrine qui a demandé ça. Et
comment se prépare à une négociation difficile.
Ouais. Comment réussir bien ces négociations. Elle a senti qu'on allait lui répondre, il faut bien se préparer, parce qu'elle nous connaît un peu. Bien vu, Sandrine. Et elle demande comment on se prépare bien. Et je pense que ça répond à ce que tu viens de dire. C'est bien connaître son client.
C'est vraiment ça. Je pense que tout à l'heure, enfin même depuis le début de la conversation, on parle beaucoup de collecter de la data ici et là. Moi, je voudrais insister un tout petit peu là-dessus parce que peut-être c'est très naturel pour toi, mais je sais que pour beaucoup de gens,
c'est pas normal,
comme moi au départ, ce n'est pas quelque chose de naturel.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais je suis vraiment la preuve, je suis là pour vous dire que c'est quelque chose, il faut un peu se forcer, mais ça change tout. Moi, il y a au début du mois de janvier, fin janvier, il y a donc notre DAF qui me dit, à partir de maintenant, je veux que le pipeline, donc c'est le document où vous voyez tous les
clients, potentiels, les prospects
potentiels, qui soit à jour en permanence. En permanence. Et puis, il me dit, en ce moment, par exemple, il y a combien dans le pipe? Donc, il me prend un peu de cours, donc je fais un calcul un peu mental.
Ouais.
Je dis, bon, je pense qu'on est, ouais, il doit avoir 7-8 trucs dans le pipe et tout. Il dit, ok, mets-les dans un document. Et quand je me pose et tranquillement pour le faire, et là, je vois qu'il y a 25
trucs. Il y a plein de trucs, toujours.
Il y a plein de trucs. Parce qu'on m'a parlé de ça, on m'a parlé de ça. Et on m'avait envoyé tel WhatsApp, etc. etc. Donc, il faut vraiment documenter.
Et consolider.
Voilà. Surtout. Et une fois qu'on a ces éléments-là, après, vous pouvez peut-être déléguer pour avoir des infos sur les uns et les autres.
C'est clair.
Qui vont vous rendre fort. En fait, on doit, si vous rentrez dans une négo avec la peur, c'est qu'il y a un problème dans la préparation.
C'est toujours.
Il faut venir avec des éléments extrêmement solides. Et moi, c'est super... moi, c'est un exercice que j'adore. C'est que quand je prépare une négociation, c'est que je cherche. Et puis, je vais trouver le point sur lequel je vais tout appuyer.
Ouais. Il faut trouver... En général, c'est le pain point de la personne.
Exactement.
Ou son histoire. Il faut bien connaître l'histoire des gens. Et souvent... C'est pour ça que le dialogue avant est important. Négocier avec quelqu'un dont on ne sait rien, c'est très difficile. Et c'est peut-être la première... Je crois que dans le groupe Telegram, ils avaient mis un truc de négociation. Je suis sûr que le premier truc qu'ils disent, c'est bien connaître les gens, comprendre qu'est-ce qui est non négociable pour eux, qu'est-ce qui est important pour eux et qu'est-ce qui est...
Nice to have.
Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent laisser.
Il y a le must have, il y a le nice to have.
Et le non négociable. Voilà. Et après, tu peux rajouter un peu de fun. Idéalement, moi, ce que je dis souvent quand nous on vendait, c'est qu'il faut connaître l'être humain derrière le boulot.
Exactement.
Alors ça, il ne faut pas oublier.
C'est qu'en face de nous, c'est des personnes.
C'est des êtres humains.
Des personnes.
C'est pas un DAF. C'est une personne qui a une vie, une famille, des amis.
Ouais, c'est quelqu'un qui a des ambitions. Ça se trouve, il est en train d'essayer de démissionner. Ça se trouve.
Il veut l'augmente.
Ouais. Donc,
ça se trouve, comme tu dis, son objectif, souvent, demander aux gens quelle est votre priorité du moment.
C'est ça.
Personnel. Objectif.
Moi, la question que je pose beaucoup dans le B2B, c'est toi, personnellement, qu'est-ce qui fera qu'au 31 décembre, on va dire que tu auras fait une belle année?
Oh, c'est beau, ça.
Et
très
là,
beau.
En fonction des réponses, je dis, ah, OK. Donc, en fait, venir encore parler de tel truc, ça n'a pas de sens.
Exact.
Venir parler de ça. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut faire attention. Ce n'est pas lors de la négociation
que tu fais
que
ça.
Tu appliques tout ce que tu as entendu là,
non,
ou tout ce
avant.
Que tu as vu dans les livres. C'est un truc, c'est en permanence. C'est comme le fameux truc de, la négociation, c'est le small talk, etc. Oui, mais pas au moment où c'est crucial.
C'est pas là au moment de décider que tu viens à l'appel d'offre dire aux gens, mais au fait, comment s'appelle votre fils ?
Non, c'est pas là.
C'est pas là, c'est avant. Et idéalement, tu vois même ce que tu as fait, toi, tu disais, là, ton mentor a dit avoir les pains de la personne, avoir les références à Nana. Tu peux faire cet exo-là pour quasiment tous tes clients. Et l'idéal, si tu trouves quelqu'un de la boîte qui n'est pas la personne qui peut te dire si ce que tu as compris est vrai ou pas, ou quelqu'un qui lui a déjà vendu. Ou un autre partenaire. Moi, ce que je faisais souvent, les créateurs que je voulais closer, je parlais avec les gens avec qui ils travaillent. Pas forcément. Il y a des créateurs, je me souviens, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Yvette Taille de la boîte Nick, elle m'a dit tel vendeur, il ne voudra jamais venir chez vendre sur un événement parce qu'il n'aime pas les ventes physiques, ou il n'a pas de stock. Et tu as l'info. Du coup, tu ne vas pas voir cette personne, tu gagnes du temps. Et du coup, quand tu arrives à la négo, tu dois savoir, limite, être dans les chaussures de la personne. Et c'est OK si tu te trompes. Mais plus tu es confiant, moins tu as peur. Et ce qui, pour répondre vraiment à la question de Sandrine en point blank, ce qui fait une bonne préparation, c'est si jamais tu vas à une négociation en ayant déjà avant eu une idée claire de, du besoin de la personne et que tu sais que ta solution y répond. Après, tu peux te dire, bien sûr, je vais ferrailler sur le montant, blablabla. Mais si tu es sûr que le besoin, tu le connais, tu sais à quel point il est prêt à payer, on est bien. Là, tu commences à avoir une vraie préparation. Après, le dernier truc qu'il ne faut jamais oublier, moi, je dis souvent aussi en termes de négo, c'est qu'il ne faut jamais venir, sur tes premiers clients notamment, il ne faut jamais venir sans avoir une idée claire aussi de ce que toi, tu es prêt à lâcher. Il ne faut pas qu'au moment où tu arrives, c'est là que tu réfléchis en live.
Exactement.
Il y a trop de gens, je vois, qui arrivent en négo et ils n'ont pas conscience du tout qui vont devoir lâcher quelque chose.
À ce moment-là, vaut mieux dire « je vous reviens ».
Je vous reviens.
Parce que tu peux faire
tu fais une grave erreur. Ouais, une grave erreur. Des fois, tu peux couper une discussion, un dialogue, parce que tu n'étais pas prêt à lâcher quelque chose en égo. En égo, tu dois toujours être prêt à lâcher quelque chose. Il faut que les gens aient l'impression d'avoir un win.
Oui. Bah oui.
Sinon, ce n'est pas intéressant. C'est humain. Tu vois, ce n'est pas intéressant sinon. Donc, après, moi, je pense que sur les premiers clients, pour conclure, un autre truc aussi que les gens disaient souvent, réseaux sociaux… Est-ce qu'il faut avoir un site ou pas ? J'ai vu cette question à un moment aussi qui était drôle.
Ouais, j'ai vu ça aussi.
Pour moi, ça dépend beaucoup de quelle va être ton acquisition. Il faut aussi être clair sur où tu trouves ton client.
Bah, le site, ça peut permettre de faire ce qu'on disait, le fake it till you make it.
Exactement. Moi, je sais que j'ai de collecter du paiement,
comment
de collecter de l'info.
Le site là, Wix.
Wix, c'est vite fait.
Oui, tu crées, mais maintenant il y a d'autres outils. Tu crées un truc, tu crées une page, tu communiques, tu vois un peu où est-ce que les gens cliquent, ça te permet d'avoir des infos. Mais est-ce que la question derrière, c'était pas.
La crédibilité ?
Non, c'est-à-dire, il y a des personnes qui se disent ah, je vais lancer un business e-commerce, et en fait, ils mettent énormément de sous.
Ah non, il ne faut pas faire ça.
Créer le site avant de se lancer. Tu vois, en se disant bientôt je suis prêt, bientôt je suis prêt. Donc là, on en revient à la culture entrepreneuriale, à la culture start-up.
C'est encore une fois.
Vous pouvez perdre beaucoup de sous là-dessus.
Sans avoir rien validé.
Sans avoir rien validé. Il faut d'abord valider vos hypothèses et pas se dire. Parce que c'est ça là, le problème, c'est que les gens vont se dire oui, mais ils ne vont pas acheter sur une landing page. Ce n'est pas beau. C'est pas. Enfin, non. Si tu règles vraiment un problème,
ils s'en foutront s'ils doivent payer même par lien PayPal.
Voilà.
S'ils doivent même t'envoyer sur WhatsApp l'argent, ils vont faire. Les gens
le
savent.
Le site d'Alibaba, c'est pas.
Non, il est dégueulasse.
C'est pas un beau site.
En fait, le meilleur exemple, c'est Craigslist, qui est l'un des sites les plus horribles au monde, qui fait énormément de cash. Donc, en fait, le moyen ne doit toujours être qu'à la mesure du reward. Il ne faut jamais dépenser plus que tu gagnes. Et surtout pas dépenser pour tester.
Et le premier site d'Africrea.
C'était dégueulasse. Il est encore sur Wayback Machine. Et encore, on a mis de la thune dans cette connerie. Si j'avais su, pour répondre aux gens, là, c'était en 2013.
Ah oui, tiens, qu'est-ce qu'on aurait fait autrement ?
Aujourd'hui, moi, j'aurais juste fait une page Facebook, un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook. Terminado, hein. Et j'aurais fait mon deal là-dessus. J'aurais dit, voilà les créateurs que je vous recommande, tel produit. Et j'aurais regardé les produits qui ont le plus d'engagement, les gens veulent acheter. Je fais payer par mois. Après, je verse au créateur et je viens voir au créateur, hey, j'ai 5 commandes de ta robe. Et là, le créateur va se dire, ah bon ? Putain, t'es un bon client. Il va t'écouter. Et tu vois, typiquement, t'as pas besoin même de parler au créateur avant de faire ça. Moi, je prends ces photos, je les mets dans mon petit groupe de fans et je leur dis, ah, mais vous avez vu cette robe, elle est incroyable. Si tout le monde s'en fout, ça me coûte rien. Mais à un bout d'un moment, il faut que je mette des trucs qui intéressent les gens. Et du coup, tu crées quelque chose. Mais si je devais refaire Africrea aujourd'hui, je ferais ça. Hein. Je ferais pas la grosse marketplace tout de suite. Et après, quand tu as une base de clients, une base de créateurs, là, avec l'argent que ça génère, tu peux investir pour créer le plus gros problème.
En fait, je pense que les gens font souvent l'erreur de penser qu'ils ont un leverage sur un élément en fait qui en est pas.
Tu en es pas. C'est-à-dire un site web, gros, c'est pas un leverage. Voilà. Tout le monde en a.
C'est ça le truc.
Tout le monde s'en fout.
Le leverage, c'est tu es capable
de résoudre
de
le
lui
problème.
Rapporter des ventes dans ton
exactement.
Cas,
ouais.
C'est pas d'avoir un site internet. C'est pour ça que faut vraiment faire attention. Hein. La vente, c'est quelque chose qui se termine quand les sous viennent sur votre compte.
Exactement, c'est pas avant.
C'est pas avant.
Et d'ailleurs, j'ai posé une question intéressante. Ils disent comment fixer le prix.
Waouh.
Alors ça, c'est un...
Le fameux prix.
Ça, je vais te laisser compléter. Moi, c'était toujours très simple. Moi, avant, j'ai fait l'erreur très longtemps de fixer les prix en fonction de ce que les gens seraient prêts à payer par la compétition. Moi, je comparais les offres compétitives et je disais, je veux être ou moins cher ou comparable. C'était ça mon offre de départ. Maintenant, parce que j'ai construit quelque chose qui est plus haut et que j'ai plus d'expérience, et parce que moi-même, je pense qu'on a plus de valeur, je price en fonction de ce qui va me permettre, moi, de survivre. Du coup, je price. En plus, une de mes règles, et ça, tu me connais, je dis souvent, il vaut toujours mieux pricer plus cher. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que tu dises, normalement, pour que je te fasse ça, ça coûte 2000 euros, mais je te le fais à 1000, que de dire, je vais faire à 1000 en espérant que la personne, un jour, puisse te payer 2000.
Non, après, ça marche plus.
C'est fini. Une fois que tu as ancré un prix, par contre, c'est là le danger du prix. C'est ancre-le le plus haut que tu peux, quitte à faire des discounts. Parce que ton but, c'est que l'argent rentre, mais que ça tienne demain. Si tu fais une boîte, c'est pas pour que un an après, bon ben, on a fait l'épisode sur quand la musique s'arrête. Il y a quand même un sujet à un moment de économie. Tu ne peux pas toujours compter sur ce qui a marché à un moment. Donc c'est le prix doit changer. C'est pour ça que souvent les gens me disent c'est quoi le prix. Je dis mais en fait ça change tout le temps.
Mais tu sais, d'ailleurs, je voudrais que les gens nous disent en commentaire s'ils sont d'accord avec moi. Mais je pense qu'il y a peut-être la matière pour tout un épisode sur le prix.
T'es sérieux?
Ouais.
Ah oh ouais, parce que excusez-moi, moi c'est très simple, hein. J'avoue, nous on est des villageois. Toi tu as un art plus élevé, je pense.
Non, je pense que c'est... Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le prix, de un. Et parmi ceux qui ne se posent pas de questions sur le prix, beaucoup font des erreurs.
C'est vrai.
Tu vois. Et je pense que, je ne sais pas, on pourrait voir... après les gens vont nous dire
en commentaire. Mais toi en 5 minutes, en un tolo, comment tu fixes?
Alors,
en teaser, pardon, excusez-moi.
Je dis, ça a pas mal changé, mais très rapidement, je sais que effectivement, là où tu commences va déterminer beaucoup de choses. si tu commences trop bas, c'est difficile de monter. Après, j'avais vu des vidéos de notre ami Oussama à l'époque,
des
Family, qui disait que ça, c'était aussi des restrictions mentales qu'on se donnait, que en fait bon tu peux monter, c'est sûr, c'est juste que tu vas perdre des clients.
Exactement.
Et puis après tu en auras d'autres.
Le point est là, tu peux et il faut se dire dans le temps, c'est-à-dire que nous c'est pareil, on a augmenté nos tarifs plusieurs fois au cours de notre histoire et j'ai rarement perdu tant de clients que ça. C'est ça qui est terrible, c'est vrai qu'en général quand tu augmentes, si ta solution est bonne, tu vas avoir des plaintes potentiellement, mais au all in all, tu t'en tires toujours mieux.
Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a un épisode, parce que même toi, tous les business models que tu as changé par abonnement, par pourcentage, etc.
Ouais, non, putain,
donc il y a le prix et puis la façon. C'est-à-dire que,
ouais. Est-ce que
les
tu
gens se posent la question, est-ce que
tu payes tout d'un cash à l'année,
voilà.
Ah ouais, c'est vrai,
est-ce
j'avais
que tu fais
ça.
Des facilités de paiement, etc.
En Afrique, Indice Economy.
Non, mais écoute, il y en a qui
Indice Economy.
Non, mais tu vois, par exemple, je le vois, tu vois, c'est les gens qui vendent de la formation, par exemple.
Ouais.
Tu as des gens qui vendent une formation à 4000 euros, d'autres qui vendent à 400 euros.
Ouais.
Les deux vendent, mais ils ne vendent pas aux mêmes personnes.
Exactement.
On en revient à ce que tu disais sur le luxe.
Sur quoi
tu te positionnes? Parfois, les gens ont un très bon produit. Mais parce qu'ils n'ont jamais vu, voilà, ils ne connaissent pas les gens qui correspondent à ce produit-là, du coup, ils vont peut-être
le mettre au bas.
Plus bas, tu vois. Moi, je suis vraiment dans cette réflexion-là. Aujourd'hui, nous, par exemple, on est une agence où on ne fait que du digital. C'est notre positionnement.
Ouais.
Mais on est souvent en concurrence sur le marché avec des agences qui font aussi autre chose. Donc, du coup... Nous, quand tu viens nous prendre, tu t'attends à avoir un service sur le digital.
Qui est premium.
Premium, plus élevé, puisque vous faites que ça.
Ça, normalement.
Mais pour avoir ce service premium, tu dois, dans ton recrutement, aussi choisir des personnes
qui sont expertes.
Donc, c'est la logique normalement qu'on soit plus cher. Mais le client va jouer sur le fait que
il y a d'autres alternatives.
Voilà, il y a d'autres alternatives. Donc tu vois, donc il faut pouvoir tenir son rang. Il faut pouvoir aussi dire non, refuser en fait.
Des clients. Non. Clients. Ça c'est capital. Je pense qu'on l'a dit rapidement, mais tous les clients ne sont pas bons à prendre. Et la première étape d'acquérir les clients, c'est d'être prêt à ne pas en avoir. Il faut être prêt à se dire, ce n'est pas cela, cela n'est pas bon. Et ça peut aussi être dans le temps. Un client peut ne pas être ton client aujourd'hui. Mais il ne faut pas détruire pour autant le lien ni la relation.
Oui, bien sûr.
Il faut être prêt des fois à faire des trucs pro bono. Moi, ça m'arrive plein de fois qu'il y a des créateurs, ils ne vendent pas du tout avec nous et je les aide. S'ils me demandent des trucs, des fois, j'aide. Moi, je n'ai pas de… Le but, c'est à un moment que tu sois quelqu'un dans l'esprit des gens qui apporte de la valeur.
Exactement. Moi, je me souviens, un des tout premiers clients aussi, c'était aussi une compagnie aérienne, Equerre.
Equerre, ah oui, c'est vrai.
On avait fait, je me souviens très bien, c'était la première compagnie africaine qui faisait un vol entre une capitale africaine, donc Brazzaville, et Dubaï. Et du coup, j'ai une amie qui travaillait là-bas et je voyais que c'était son gros projet. Et il faisait des conférences de presse, il y avait des événements, voilà, il y avait tout. Je voyais quelques articles passer, je lui ai dit, mais tu sais, c'est un gros événement, apparemment, dans le monde de l'aérien en Afrique, mais dans notre génération, personne n'est au courant.
Oui.
Elle dit, ah ouais, mais comment ça se fait? Je dis, mais parce que les gens sont sur les réseaux sociaux, tu vois.
Ils ne sont pas devant la presse ou devant les RFI.
Ouais, on parle de 2014, tu vois. Et donc, je dis, écoute, ce qu'on va faire, c'est que, pour ce lancement-là, parce que là, je savais que c'était le timing parfait parce que toute la direction chez eux avait les yeux rivés sur ce truc.
Oui.
Donc, si ça, c'est très important. Il faut savoir
la prise de décision
où regarde celui qui prend la décision. Tu vois.
Qu'est-ce qu'il regarde
là? Je sais qu'il regarde tout cela. Donc, je dis, on va faire le lancement, on va faire un mois. Tu vas voir comment ça va se passer, etc. Envoyez-nous juste telle vidéo. Et du coup, on a boosté le truc. En plus, c'est le moment où les réseaux, quand même, le reach était intéressant.
Pas mal. Non, en 2014, tu payais 10 euros, il y avait la terre entière qui voyait ton bail.
Mes gars, je me souviens, j'avais un gars à Cotonou, tout ça, on est à fond là pendant un mois et tout. Et au bout d'un mois, elle a appelé, elle dit, bon, la direction demande c'est combien vos honoraires.
Ah là, c'est bon ça, money.
Mais il faut sentir.
Apporter de la valeur des fois.
Il faut apporter de la valeur.
Et là, t'as été dans le pain point. T'as vu que là,
exactement.
C'était important pour eux.
Que tout le monde le sache.
L'une des dernières questions qu'on nous avait posées, qui est un peu liminaire à acquérir, c'est quels sont les KPI pour savoir si on est bon à l'acquisition et comment fidéliser les clients à acquérir une fois acquéris. Donc ça, c'est une limite à notre épisode pour être honnête. Pareil. Prix et fidéliser, je pense qu'on pourrait le faire en dehors, clairement. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez un épisode à part, parce que c'est vraiment long, fidéliser. C'est vraiment qualité de service. Ça, c'est autre chose. Maintenant, sur le KPI, moi, je dirais qu'en général, comme a dit Kaï, déjà, il faut avoir un pipe. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne mesures pas.
Exactement.
Si tu ne mesures pas, le KPI, c'est clé. Donc, l'indicateur de performance, c'est tu dois savoir qui sont tes clients potentiels. Avoir une idée de combien ils sont, quels sont leurs processus de décision, font un timing et un prix pour chaque personne. Déjà, si c'est dans l'acquisition générique. Maintenant, nous, dans notre cas, comme on est très digital et vraiment truc, il faut traquer aussi tes sources. Nous, toutes les semaines, on traque les sources des vendeurs et des acheteurs. D'où ils viennent. Et il faut aussi traquer ton effort. Le KPI, donc pour moi, qu'il faut suivre quand tu es en digital, c'est la source des conversions. Donc, est-ce que c'est des gens qui sont venus en SEO? Est-ce que c'est des gens qui sont venus par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des gens qui sont venus par les newsletters? C'est important. Est-ce que les gens qui sont venus par le direct, est-ce que c'était par… ils sont tombés sur la page d'un vendeur? Donc, c'est-à-dire que c'est un vendeur qui a mis le lien de sa boutique Africrea et pas notre post à nous sur les réseaux. Important. Ensuite, il faut traquer toi ton effort. Dire, quand je poste sur les réseaux sociaux telle semaine, quel est le reach? Quel est le nombre de clics? Quel est le nombre de visiteurs? Quel est le nombre d'acheteurs? Et… au début, tu peux le faire de façon blend, mais très vite, si tu veux être efficace, il faut le filtrer par canal d'acquisition. Tu ne peux pas comparer, parce que tu vas voir par canal d'acquisition, par exemple, les réseaux sociaux, les gens se butent dessus. Nous, chez nous, on a remarqué que ce n'est pas le plus gros volume, déjà un. La majorité de nos gens viennent en SEO. Peu de gens savent ça. Nous, les gens viennent avec la recherche d'un mot-clé. Et c'est les gens qui ont le plus gros intention d'achat, parce qu'ils cherchent un truc qu'ils veulent acheter maintenant. la plus grosse intention d'achat, pardon, et celles, ceux qui ont aussi le plus gros panier, le meilleur taux de conversion.
Mais ce que tu dis est tellement important dans l'analyse parce qu'on part sur des a priori. Comme on est souvent sur
tous les réseaux, on pense que c'est là-bas.
C'est là. Mais si tu ne regardes pas,
tu sais pas.
Tu vois, c'est comme même là pour le podcast.
Ouais.
Je crois que 85, voire 90% des gens qui regardent, regardent parce que YouTube leur a poussé
leur a recommandé ça.
Alors que tu pourrais croire que oui, parce que tu as partagé sur WhatsApp.
Non, c'est pas ça. Et c'est ça qui est important et très important, c'est qu'aussi, regarde, la valeur du client aussi déterminée par ça. C'est-à-dire que tous les clients ne se valent pas et tous les efforts ne se valent pas. Ce qui veut dire aussi, par exemple, les réseaux sociaux, nous, on a vite compris qu'en fait, les gens sont perturbés quand ils te voient sur les réseaux sociaux. Même s'ils ont adoré le produit, ils n'avaient pas prévu d'acheter, juste pas l'argent. Alors qu'un gars qui est venu par Google en disant « je cherche une robe en wax pour ma soirée ou pour mon anniversaire ou pour mon mariage », il a l'oseille. Il a le problème maintenant. Après, des fois, il y a des problèmes aussi de timing. Comme je disais, c'est que les gens qui viennent en SEO, on a remarqué qu'ils achètent des produits de livraison plus courte. Parce que comme ils ont un besoin maintenant, ils veulent acheter maintenant.
Ouais.
Un gars d'un réseau social, lui, peut acheter maintenant et attendre, ça arrive dans un mois. Donc, c'est d'où le timing et le coût. Donc, c'est pour moi ça l'acquisition. Et la fidélisation, là, franchement, c'est un autre épisode. Parce que pour moi, ce que je peux te dire juste, c'est qu'il faut traquer aussi tes clients, combien ils te rapportent. Tu devrais savoir, chacun de tes clients, un, combien ils te rapportent dans ton revenu, lesquels sont les bons payeurs, mauvais payeurs, lesquels débattent beaucoup. Par exemple, nous, un client, on traque sur tous les clients, revenus générés par trimestre, nombre de requêtes, parce qu'il y a des clients qui ne t'écrivent jamais, mais qui te rapportent beaucoup d'argent. Tu as des clients qui t'écrivent tout le temps, qui ne te rapportent rien. Et tu vas passer ton temps sur ceux qui rapportent rien, ton temps d'être sur ceux qui rapportent. Et dernier, du coup, la mesure du coût d'un client. Donc nous, c'est les requêtes customer. Mais aussi, regarde, quel client, par exemple, chez toi, nous, on voit avoir un client qui a investi beaucoup chez nous, qui met beaucoup de produits, mais qui ne vend pas. Lui, on va le fidéliser parce qu'on se dit, il a investi du temps chez nous, même s'il n'a pas de résultat. Ce client a là plus d'upside que quelqu'un qui est venu, qui a mis 3 produits et n'est jamais revenu.
Ouais.
Donc, il y a le coût aussi. Donc, moi, je dirais ça, je ne sais pas pour toi, ce que toi, tu verrais en plus.
Moi, je pense que déjà, avec ce que tu viens de dire, ce qui est super important pour les gens qui se posent des questions, c'est de se dire que si vous n'avez pas de traction, il faut changer la méthode.
Ouais.
Parce que si vous utilisez toujours la même méthode, vous aurez toujours les mêmes résultats. Maintenant, sur la fidélisation, je pense que ce que tu disais, ça m'a fait penser à… j'avais lu ou vu des stats sur les gens qui. Un article sur des gens qui créaient des applications. Et ils disaient que le Graal dans une application, c'est pour vraiment être une application à succès.
C'est les gens qui viennent tous les jours.
C'est ça.
Quotidien. C'est la règle des applications.
Ouais. Avoir des gens qui viennent sur ton appli tous les jours.
Every day.
Ouais. Si vous analysez, ça veut dire détrôner Instagram, WhatsApp.
Non, mais c'est. Et t'as très raison, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Les types de produits n'ont pas les mêmes fréquences.
C'est ça. Et les gens se disent, je vais créer une app. Ouais, ok, mais la fréquence.
La métrique, c'est daily. T'as raison.
Comment tu vas fidéliser? Et donc, pourquoi je prends cette analogie? Ça veut dire que à quel point tu es important dans le quotidien
de la personne.
De la personne.
Quel est son besoin et la fréquence? Quelle est ton offre et sa fréquence? C'est vrai.
Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment fasciné par le sujet de la communauté. Parce que je pense que vous pouvez effectivement avoir peut-être un produit qui ne nécessite pas d'être acheté tous les jours. Donc, c'est difficile d'être dans le quotidien de la personne.
Ouais.
Mais vous pouvez en tout cas apporter de la valeur à votre communauté par autre chose que
quotidiennement,
votre produit.
Exactement, quotidiennement.
Voilà, tu peux créer une communauté et apporter… voilà, si je prends des exemples pour vraiment expliquer ce que même des grands noms font, c'est que par exemple, Nike, ils ont une grosse communauté des runners, des gens qui aiment faire les footings et ils se partagent, ils se challengent, ils disent « voilà, moi j'ai fait tel score, ah, j'ai découvert tel parcours, etc. » Mais c'est toujours sous la même
mission. Ouais.
Exactement. Et puis, ils portent des chaussures Nike et puis ils ont l'application Nike. Ou tu as Ikea, le magasin de meubles, qui a des communautés de gens passionnés de décoration. Donc, ils se donnent des tips de décoration.
Ils ne sont pas toujours avec Ikea.
Voilà. Ah. Mais Ikea peut dire, ah ben tiens, ça, si vous voulez faire cette déco, nous, on a les meubles.
On peut faire.
Donc, c'est de créer communauté, trouver en fait… le point commun entre vos clients, ce qui les intéresse en tant que personne pour leur apporter de la valeur.
Pain point,
donc on en revient toujours à la personne, on en revient toujours à l'humain. qu'est-ce qui le touche, qu'est-ce qui le tracasse, et lui apporter en fait des éléments là-dessus.
Ouais.
Même si c'est pas de la vente.
Ouais. Des fois, c'est juste dans le dialogue identifier le pain point. Et comme tu as dit, tu peux changer la customer journey pour que la solution que tu amènes, même si elle n'est pas au même timing, après, leur donne envie de faire du business avec ta marque.
Exactement.
Donc, je pense que c'est là où la marque, la persona, tout ça rentre en compte à terme. Mais la première étape, c'est, je pense qu'on a le mot, hein, c'est pain point.
Pain point. Et what's the pain point?
What's the pain point?
Le
après,
point de douleur.
Après, on pourrait dire écoute aussi, mais comme on a déjà dit écoute, je pense au truc de... Je crois qu'on a dit écoute à l'époque, au truc de
ah, je me souviens
Dorian.
Plus.
Là, je sais plus c'était quoi le mot à l'époque, là, j'avoue, là, je ne suis plus sûr. Mais si vous voulez, franchement, dites-nous, pour ceux qui sont encore là, très important, merci. On apprécie que vous preniez le temps de nous écouter aussi longtemps. Likez la vidéo, parce que je pense quand même que là, on a lâché quand même de l'info. On vous donne des liens, on vous donne des trucs, on donne des méthodes.
C'est ça. Likez, abonnez et commentez, parce que j'ai fait une petite analyse là.
Eh, Seigneur.
Non, mais quand tu as 10 000 vues et puis tu as 100 commentaires, ça veut dire quoi, ça, en termes de stats?
Ça veut dire qu'il y a 1% des gens qui sont qui quelque chose à dire.
Les gars,
c'est gratuit,
même,
c'est gratuit, les gars.
Même, ça pousse, ça booste. Hein,
j'avoue. Et puis franchement, même si vous voulez pas utiliser le mot, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a fait. Ou comme dit Gaï, est-ce que vous voulez qu'on fasse un épisode sur la fidélisation? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un épisode sur le prix? Dites-le nous, on est là, on écoute. On est dans les commentaires. Et si vous n'avez pas vu, en plus sur Instagram, on commence à partager vos commentaires. Donc,
exactement,
ne serait-ce que par un minimum d'ego, on peut vous mettre bien. Genre, on a 2000 followers sur Instagram, ça peut monter vite.
En plus, on répond à tous les commentaires, pour le coup.
Quasiment. Donc, non,
donc,
franchement.
Donc, pain point, le point de douleur. Essayez de nous faire des commentaires avec cette expression-là.
Voilà, si c'est chaud, vous mettez écoute.
Voilà, exactement.
Quelle est la dernière fois où vous avez écouté? Moi, je dirais, encore une fois, tout à l'heure, j'ai rigolé, mais franchement, devenir un bon vendeur, ça commence par apprendre à offrir des bons cadeaux.
Exactement. Et puis surtout, on sait que ce sujet de la vente, il y a tellement de questions.
Ouais.
Ça fait la deuxième fois qu'on le traite, on a essayé de le traiter sous un autre angle. Donc dites-nous, comme on l'a dit pour fidélisation, si vous voyez d'autres
angles, des questions.
Et puis voilà, on reste à l'écoute et puis on vous dit à la prochaine.
À la prochaine.
Ciao.
Ciao.